Radio Estacade, le mystère du gouffre. Un polar radiophonique de l'agence de géographie affective.
Cap Breton. J'y suis. Le vent mord. Les vagues s'élèvent. L'océan gronde. Je me présente. Je suis Olivier, agent de la géographie affective. J'enquête sur la manière dont les lieux nous habitent, nous traversent, nous hantent, nous transforment. On m'a dit, ici, tout commence sur le marché aux poissons. Messieurs, dames, vous qui m'écoutez, installez-vous dans la barque, prêts à larguer les amarres ?
Monsieur, bonjour. Vous avez des belles petites soles, là, 15 euros, les 2,28 kg. Magnifique.
Deux vendeuses me regardent du coin de l'œil, comme si j'étais un merlu pas frais. Dans les étals, des poissons de toutes les formes, de toutes les couleurs.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur. Qu'est-ce que ça sera pour vous?
Eh ben tiens, si je prenais... Ah, une douzaine de chinchards.
Du chinchard, tiens. Ok, je vous fais ça. Eh ben, c'est pas tous les jours qu'un touriste prend autre chose que de la dorade.
Je sens que je gagne la confiance des deux poissonnières. Je sors ma carte bleue et on sympathise. Elles me partagent un nom de code.
Radio Estacade. Si tu prononces ces mots, tu acceptes de t'aventurer dans l'inconnu. Tu sais pas ce que tu vas pêcher. Et à toi, ensuite, de démêler le vrai du faux.
Je mords à l'hameçon. Je pars à l'abordage, je me rends sur l'estacade. Le vrai, hein. Ce pont en bois qui invite au plus près du large. Je rencontre un jeune homme avec son chien. Il est là, face à la mer. J'ose. Radio Estacade. Il enclenche direct.
On dit qu'ici, sous l'eau, il y a un gouffre. Le gouffre. Un canyon sous-marin si profond qu'il avale les sons, les lumières, les certitudes. On raconte qu'il y a un pêcheur qui a disparu. Moi, je suis venu avec mon chien chercher une trace. Pas forcément de lui, peut-être du vertige qu'il a laissé. Du vide qui aspire encore.
J'ai erré sur la plage, aspiré par le large. Je n'ai pas le choix. Rencontrer un pêcheur pour savoir ce qu'il en est. Je retourne voir les poissonnières. Bizarre. Plus personne. Sur le quai, en contrebas, un homme.
Vous vous appelez comment ?
Nicolas.
Nicolas. Et vous, c'est vous le capitaine ?
Oui.
Il frotte la coque de son bateau, comme on caresse un animal blessé. Ses mains connaissent chaque cicatrice du bois.
Il s'appelle comment, ton bateau ?
Celui-là, c'est le GVLZ. C'est un nom breton.
D'accord.
Et le bateau, il a toujours été appelé comme ça. Et du coup, en général, on renomme pas les bateaux, quoi. Ça porte malheur. Donc j'ai gardé le nom.
Qu'est-ce que c'est d'être marin-pêcheur pour vous ?
Je pense une liberté, être libre, quoi. De ne pas être assis sur une chaise dans un bureau. Bon, certes, c'est pas un métier facile, mais bon, on y prend goût, quoi.
Pour toi, c'est quoi le gouffre ?
C'est une réserve de poissons. Et le gouffre, en général, ben, on n'y travaille pas parce que nous, en tant que filière, on n'a pas le droit d'y travailler. C'est une zone interdite. Il n'y a que les ligneurs et les chalutiers qui ont le droit d'y travailler.
Mais ce n'est pas tout. Il me raconte sa sensation. Le gouffre, oui, il est là, dessous. Mais ce n'est pas qu'un trou. C'est un ventre. Il donne et parfois, il reprend. Un ventre. Le vocabulaire du corps pour décrire un lieu. Je note, ici, la mer a des organes et peut-être une mémoire. Nicolas a titillé ma curiosité. Le gouffre. C'est quoi le mystère du gouffre ? Dans la rue commerçante, la fleuriste Camille arrange sa vitrine. Elle parle à ses plantes comme d'autres parlent à l'océan. Je l'aborde et elle a tout de suite compris de quoi je veux parler.
Il doit y avoir des choses un peu étranges, j'imagine, un peu quelque chose d'assez étrange, je pense, parce qu'au final, c'est pas quelque chose qui y a partout. Donc l'été, J'ai toujours mon petit sac par là, je ferme, et claque, on va à la plage et je reviens. Et c'est quasiment tous les jours.
Je l'écoute et je regarde autour de nous. Même sur la terre ferme, le sel remonte. Tout ici est imprégné d'océan. Les fleurs, les pierres, les rêves. Les pétales brillent comme des écailles. Un groupe d'ados passe devant moi. Je les suis. J'entends la rumeur de leurs échanges. C'est Radio Estacade de la pêche amoureuse. C'est Radio Estacade de la drague. Ils se tankent, les ados, sur les tables, face au hublot de la médiathèque. À l'intérieur, une affiche du gouffre attire mon œil. J'entre dans la médiathèque et tout de suite, une femme aux yeux bleus océan m'accueille et m'entraîne à l'étage. Sous ses doigts, les cartes sont vivantes, palpitantes. Chaque ligne raconte une bataille contre l'eau. Le gouffre, c'est la clé du port, m'explique-t-elle. Un refuge et un danger à la fois. Napoléon III est venu voir ça de ses yeux. Il voulait comprendre. L'estacade qu'il a fait construire, c'est une cicatrice qu'on refait sans cesse. Chaque tempête rouvre la plaie et chaque génération la recoue. Une cicatrice vivante. Le gouffre serait donc une blessure? Une bouche qui respire? Quelque chose qui refuse de guérir? J'attrape un livre au hasard. Un homme à côté de moi me saute dessus. C'est l'auteur du livre en personne. Celui que j'ai entre les mains, le livre. J'en reviens pas, quelle coïncidence. Mais c'est Hugo Verlhomme, l'écrivain. Il attrape mon livre, enfin son livre, le repose et m'entraîne dehors en deux-deux. Nous sommes sur la plage. Il me parle comme si le canyon l'habitait.
À Cabreton, les gens savaient qu'il y avait un gouffre, c'est un fleuve invisible.
C'est ça, il paraît qu'il y a des courants.
C'est un truc, c'est les courants gravitaires et beaucoup d'avalanches. Mais le gouffre, c'est un des plus grands patrimoines de France. C'est le seul canyon relié au littoral de type gouffre. En fait, les canyons qui sont reliés au littoral, on les appelle de type gouffre.
Il me parle comme s'il était le canyon.
Bah, le sentiment que j'ai avec ce canyon, c'est d'avoir été ce qu'on appelle un découvreur, son découvreur, de se comprendre un peu mieux. Et puis je travaille tellement dessus depuis 2005 que je commence à avoir une expertise aussi sur ce canyon.
Et l'océan dans tout ça?
On ne devrait plus dire les océans. L'océan est une espèce d'entité vivante.
L'océan n'est pas qu'une surface, c'est aussi une profondeur. Allez, on plonge! Je suis avec Julie, notre agente subaquatique. Formée à la plongée et au théâtre d'improvisation, ce qui aide, paraît-il, face à un poulpe.
Ici Julie. Je descends. 30 mètres. 50. Il fait noir comme dans un rêve sans fin. Mais là-bas, en bas, tout disparaît. La lumière d'abord, puis les repères, puis toi-même.
Tu as peur?
Toujours. C'est pour ça que j'y retourne. La peur, c'est la preuve qu'on est vivant, que quelque chose nous dépasse encore.
Je reste en surface, à attendre. Le temps s'étire, devient élastique. Mais quand elle remonte, son regard a changé.
J'ai rien trouvé, mais j'ai senti quelque chose, comme une présence. Ou une absence tellement forte qu'elle devient présence.
Oh ben continuez à surfer les gars, il n'y a que ça qui est bon.
Voilà Pierre, le surfeur. Il rit quand je lui parle du gouffre. C'est un rire nerveux presque hystérique. Le gouffre, c'est son terrain de jeu. Il me raconte les vagues qui naissent au-dessus du canyon, des vagues imprévisibles, comme si le gouffre leur donnait une énergie particulière.
Alors on peut surfer, même quand la mer est très grosse. Si c'est trop dangereux, on s'approche à deux estacades là-bas. Les vagues sont plus grosses au nord qu'au sud. Il n'y a qu'à voir en face de l'estacade. Regardez, il n'y a presque pas de vagues.
Je dois vous faire un aveu. J'aime pas le surf. La seule fois où j'ai essayé, j'avais la sensation que je ne surfais pas sur l'eau. Ma sensation, c'était « je surfe sur le vide, sur l'abîme ». C'est grisant, mais terrifiant. Ce serait un peu comme danser au bord d'un précipice. Pierre, tu crois qu'il y a quelque chose là-dessous?
Imaginez-vous qu'un jour vous vous réveillez, bah, plus océan. Faire drôle quand même, hein, les bateaux à sec. Et alors là, on découvrirait ce qu'il y a au fond du gouffre. Une vallée sous-marine, mais asséchée. Alors maintenant, c'est rempli d'eau, ça entend mieux. Pour nous, à notre piscine naturelle, à nous, c'est gratos.
Je sens qu'il pourrait me parler des heures. Je lui pose la question essentielle. Y a-t-il un mystère du gouffre?
Les mystères de gouffre, pour moi, bon, il doit y avoir des calamars géants, tout ça, mais ça n'a jamais été vraiment filmé. Hein.
Il regarde la mer et il cherche dans sa tête quelque chose de plus à dire. Il écoute la vague qui s'écrase sur le sable. Il ouvre les bras et il prend une grande respiration. Sans le savoir, Pierre me donne le seul conseil applicable à la vie entière. Respirez. Moi, ça m'ouvre l'appétit. Au restaurant Le Bon Cap, Jérôme cuisine ce que la mère lui donne.
Moi, j'ai un principe, il est là. Je ne veux pas stocker pour stocker. L'idée, c'est d'avoir du poisson frais, du jour, et d'en avoir un petit peu. Et ça m'arrive souvent, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà, c'est comme ça. Mais ça permet aussi de garder le lien avec les pêcheurs. On y va tous les matins, et puis on a d'autres espèces. On a plein de poissons, on a plein d'espèces ici. Ouais. C'est extraordinaire. On a des poissons que j'avais jamais entendu parler.
Je comprends. Ici, le mystère se digère. Il nourrit la ville silencieusement. Il entre dans les corps, devient chair. Chez le chocolatier, on m'a dit « Si tu veux entendre une vraie radio estacade, va voir Linda, la patronne du Jouet Club. Entre les Playmobil et les pistolets à eau, elle règne. »
Vous enquêtez sur le gouffre ? Alors vous devez voir ça.
Arrière-boutique, pénombre, et là, une maquette. Le gouffre ? Une reproduction parfaite du canyon sous-marin, en trois dimensions. Mais Linda, comment est-ce possible ?
Je l'ai construite de mes mains. Pendant 20 ans, chaque nuit, le gouffre me parlait, me guidait, me montrait ses formes, ses courbes, ses secrets.
Je m'approche. La maquette semble vivante. Des lumières pulsent dans les profondeurs miniatures. Je distingue une silhouette. Mais c'est le pêcheur disparu.
Disparu? Oh non, c'est un mot de terrien. Le gouffre ne garde rien, il transforme. Certains disent que c'est juste un canyon. Moi, je pense que c'est un organisme vivant. Et nous sommes ses cellules. Chaque pensée, chaque peur, chaque espoir alimente le canyon. Et d'une manière ou d'une autre, ça nous revient. Alors le mystère, au fond, n'en est peut-être pas un. C'est juste une forme de vie qu'on ne sait pas encore nommer. Vous voyez, dans le magasin, je vends des jouets, mais parfois j'ai l'impression de garder un secret beaucoup plus grand.
Je sors du magasin, tout étourdi. La nuit est tombée sur Cap-Breton. L'océan, au loin, gronde toujours. Mais je l'entends plus pareil. J'ai traversé le port, le centre-ville avec ses commerces, les archives, les cuisines, l'estacade. Partout, on m'a parlé du gouffre. Et tous et toutes m'ont dit la même chose. On vit avec la mer. Alors, Faut-il percer le mystère du gouffre ou accepter qu'il nous traverse? Moi, Olivier, agent de la géographie affective, je conclus que certains mystères ne sont pas à résoudre, ils sont à habiter. Peut-être que le vrai mystère n'est pas le gouffre. Peut-être que le vrai mystère, c'est nous, notre capacité à vivre au bord de l'abîme, à danser avec le vertige, à transformer la peur en beauté. Le pêcheur n'a pas disparu. Il est devenu vague, il est devenu sel, il est devenu légende. L'enquête est close. Si l'on vous demande si tout ça est vrai, c'est simple, vous n'aurez qu'à répondre « Radio Estacade ».